Alors vous vous demandez peut-être pourquoi pour ce culte de la Réformation, au lieu de parler du chapitre bien connu de la lettre de Paul aux Romains qui a permis à Luther de découvrir que, comme je l'ai dit tout à l'heure en d'autres termes, au moment de l'annonce du pardon, l'homme est à la fois toujours pécheur et déjà toujours justifié, toujours rendu juste par l'amour exigeant mais inconditionnel de Dieu. Pourquoi, au lieu de parler de ce texte, j'ai choisi ce récit de la mort d'Ananias et Saphira? C'est une histoire célèbre, une histoire qui a inspiré de nombreux peintres, une histoire qui a joué un rôle théologique important, mais c'est une histoire, et je m'en suis rendu compte en vous regardant, et ça m'a fait plaisir, c'est une histoire qui nous met aujourd'hui franchement un peu mal à l'aise. Mais justement, je crois qu'il faut en parler et que ça a du sens de le faire au sujet de la réforme. Parce que cette histoire ne nous plonge pas seulement dans la vie difficile des premières communautés chrétiennes, parce qu'elle raconte à travers les phénomènes qu'elle décrit, elle nous permet aussi de nous interroger sur le fonctionnement des églises. Et bien sûr, c'est pas par hasard que je l'ai mise en regard avec le texte précédent où Jésus nous parle de justice et de compassion. Alors comme cette histoire fait partie des textes bibliques qui gênent un peu, en tout cas aujourd'hui, certains ont décidé qu'elle avait été inventée pour impressionner les fidèles. Alors bien sûr, c'est possible. C'est vrai qu'avec ces deux parties, la mort brutale d'Ananias pendant que Pierre l'interroge, et puis ensuite le rebondissement tout aussi surprenant avec l'arrivée de Saphira, qui n'est pas au courant de la mort de son mari et qui se fait piéger pendant l'interrogatoire, parce que c'est ça. Cette histoire a un peu l'air d'un conte moral, d'un conte. Et pourtant, pour ma part, je crois, en tout cas je pense que c'est pas du tout un conte, ou que, en tout cas, c'en est pas forcément un. Je pense même qu'il est tout à fait possible que les choses se soient passées exactement comme elles sont racontées. N'oublions pas que nous sommes dans une communauté des tout premiers temps de l'Église, une communauté très, très croyante. Et surtout, une communauté, comme dans toutes les communautés, mais celle-ci persécutée, petite, très exigeante, où la pression exercée par le groupe sur les individus est très, très forte. Et quand Pierre dit à Ananias, « Mais pourquoi as-tu menti alors que tu pouvais très bien garder ton champ ?» Eh bien, je trouve qu'il n'est pas tout à fait honnête. On a très bien compris en entendant le texte que la mise en commun des biens n'était plus vraiment spontanée. Et d'ailleurs, on a retrouvé à Qumran, dans les manuscrits de la Mère Morte, une règle de vie communautaire, il y en avait plusieurs, qui rendait bien sûr le partage des biens obligatoire. Et on l'a bien entendu, dans cette communauté dirigée par Pierre, ils ont même déjà mis en place un rituel. C'est ce qui arrive juste avant. Tous ceux qui possèdent des champs ou des maisons viennent en déposer le prix aux pieds des apôtres. Les apôtres, c'est-à-dire les dirigeants, à commencer par Pierre, justement. Et ce sont les apôtres qui se chargent ensuite de la redistribution. On imagine très bien la pression psychologique exercée parmi les membres de la communauté. Les reproches, pas forcément formulés, mais les reproches quand même. Et ces deux-là, ils n'ont pas un champ, mais pourquoi ils ne le vendent pas? Et le désir de ces deux malheureux, Ananias et Saphira, le désir de se faire peut-être bien voir, oui, effectivement. J'ai lu dans des exégèses que c'était une critique du paraître. Peut-être. Le désir de se faire bien voir, de passer pour plus saints qu'ils ne sont, ou tout simplement le désir d'obtenir l'amitié, la considération des autres, en venant à leur tour déposer l'argent aux pieds des apôtres. Alors c'est peut-être à cause de l'arrêt cardiaque, des arrêts cardiaques, mais je ne sais pas pourquoi Ananias et Saphira, je les imagine plutôt jeunes, ayant la foi, oui, mais un peu inquiets malgré tout. D'accord, À cette époque, les croyants liquident tous leurs biens et partagent l'argent en attendant le retour du Seigneur, retour qu'ils croient imminent. Mais s'il ne revenait pas tout de suite, qu'est-ce qui va nous arriver? Et d'ailleurs, la suite des événements ne leur a pas donné totalement tort. Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va vivre si on donne tout? Alors oui, après leur premier mouvement de générosité, après avoir peut-être cédé à la pression collective et vendu leur champ, ils ont eu peut-être un peu peur. Pas tellement, puisqu'ils n'ont pas tout gardé, c'est déjà remarquable. C'est plus que beaucoup d'entre nous peuvent le dire, la plupart, en fait tous peut-être. Mais un peu, beaucoup. Un peu, juste assez pour faire des bêtises. Garder un peu de l'argent pour eux et surtout faire ce petit mensonge en pensant que personne ne s'en apercevra. Et si ça se trouve, ce mensonge leur pèse tellement, les culpabilise déjà tellement, que c'est comme ça que Pierre s'en aperçoit. Ananias arrive peut-être tout tremblant, ou il bafouille, ou il n'ose pas le regarder en face. Alors oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de faiblesses humaines dans cette histoire. De leur part en particulier, le désir, de leur part d'abord, le désir de se faire bien voir, un certain amour de l'argent, un certain calcul, ce qui est déjà plus problématique. Ils se sont entendus entre eux pour mentir, c'est vrai. Et bien sûr, le mensonge lui-même. Mais enfin, si on doit dans cette histoire utiliser un mot que je n'aime pas beaucoup utiliser, mais aujourd'hui on va l'utiliser, le mot de péché. Le péché, le vrai, ce n'est pas eux qui le commettent. Si leur sentiment de culpabilité envers Dieu et envers la communauté est si fort qu'ils meurent quand ils sont mis en accusation, c'est justement parce qu'ils ont la foi. Quand Pierre dit à Ananias qu'il a menti à l'Esprit-Saint et à Dieu, Ananias le croit totalement. Il le croit si fort que son cœur s'arrête de battre. Quand Pierre menace Saphira en lui révélant, et par surprise, de manière particulièrement ignoble, en lui révélant la mort de son mari et en lui annonçant sa propre mort, elle le croit tellement qu'elle meurt à son tour. Et on voit très bien que dans ce texte, malgré leurs petites faiblesses, leurs petites fautes, Ananias et Saphira sont des victimes. Alors, des victimes de qui? De quoi? Au verset 11, on l'a entendu, apparaît pour la première fois dans les Actes des Apôtres, et peut-être pour la première fois dans l'histoire, un mot promis à un grand avenir. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela. L'Église, ek kaleo, l'assemblée de ceux qui sont appelés. C'est peut-être bien la première fois qu'elle est responsable de la mort d'êtres humains, mais nous savons bien que ce n'est pas la dernière. Elle l'est ici par l'intermédiaire d'un de ses représentants les plus éminents, Pierre lui-même. Alors, eh bien la réforme l'a affirmé 15 siècles plus tard. Comme chaque être humain est à la fois justifié et pécheur, l'Église est à la fois sainte et pécheresse. Et cela, nous le voyons dans ce récit dès le commencement. Le péché que l'Église commet par l'intermédiaire de Pierre en terrorisant Ananias et Saphira au point qu'ils en meurent, et vous avez remarqué qu'ils sont enterrés à la va-vite, c'est le moins qu'on puisse dire, et hop, on les emporte, sans prière, ce n'est pas seulement un manque de compréhension et d'amour, c'est une manipulation psychologique extrêmement grave. Non seulement des chrétiens, et pas n'importe lesquels, font preuve ici d'une grande dureté de cœur envers leurs frères et sœurs, ce qui est déjà, on l'a entendu, contraire à l'Évangile, mais ils prétendent le faire au nom du Seigneur, en invoquant l'Esprit-Saint. Et nous savons bien que ce n'est qu'un début, que les églises chercheront toujours à exercer leur pouvoir au nom du Christ en invoquant l'Esprit-Saint. La grande crainte dont parle le texte, et ne nous y trompons pas, parce que je vous l'ai déjà dit, en hébreu, la crainte de Dieu est effectivement un mot qui signifie d'abord aussi la foi. Mais en grec, il y a deux mots totalement différents. Et là, il s'agit du mot phobos. C'est bien de peur qu'il s'agit. Cette peur qui s'empare des fidèles après la mort d'Ananias et Saphira, eh bien, ce n'est pas la foi dans le Dieu de Jésus-Christ. C'est la conséquence d'une manipulation psychologique, d'une autorité humaine, d'un pouvoir usurpé par le dirigeant d'une communauté. Et nous le savons, cette autorité, tellement contraire à l'esprit de l'Évangile, elle sera exercée à bien des époques et dans toutes les églises, y compris dans la nôtre. Bien sûr. Feuilletons quelques instants avec l'écrivain Stefan Zweig les registres de Genève sous l'autorité de Calvin. Un bourgeois a souri lors d'un baptême. 3 jours de prison. Un autre s'est endormi pendant le prêche. La prison. 2 bourgeois ont été surpris jouant aux quilles. La prison. Quelqu'un a critiqué la théorie de la prédestination. On lui perce la langue au fer rouge. Bientôt, les cachots sont tellement bondés qu'on n'y peut plus loger aucun prisonnier. Et ne parlons pas des bûchers. On pense toujours aux bûchers de l'Inquisition catholique, et on n'a pas tort, parce qu'il y en a eu beaucoup plus. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Calvin, et avec son accord, le tribunal de Genève a condamné au bûcher 49 personnes. Le théologien Michel Servet, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, et 48 femmes qu'on a complètement oubliées. 48 femmes qu'on appelait alors des sorcières. 48 femmes, peut-être un peu déséquilibrées, accusées de sorcellerie, rendues à moitié folles ou complètement par les interrogatoires. Alors, en écrivant cette histoire d'Ananias et Saphira, Luc pensait sans doute montrer que la justice de Dieu était à l'œuvre dès les commencements de l'Église. Et en réalité, il nous montre le contraire. Le mal était présent non pas en dehors de l'Église, mais au-dedans, et cela dès les commencements. Et nous savons qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, et y compris quelquefois dans certaines de nos communautés protestantes, la tentation de la manipulation psychologique existe et que nous devons nous y opposer. Mais est-ce que parce que le mal est présent dans l'Église, comme dans toute institution humaine, est-ce que ça voudrait dire que l'Église ne peut pas être un lieu de foi et de justice ? Eh bien, je ne le crois pas, bien sûr. Autrement, je ne serais peut-être pas là. Je voudrais citer le prêtre Loisy, lui-même excommunié en 1908 par sa propre Église. Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. On connaît bien cette phrase, on connaît moins la suite. Donc je relis tout. Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Elle est venue en élargissant la forme de l'Évangile qui était impossible à garder telle qu'elle dès lors que le ministère de Jésus avait été clos par sa passion. Et je pense que ces deux phrases résument très bien les difficultés auxquelles nous sommes toujours confrontés. Aussi pécheresses qu'elles aient été et soient encore, trop souvent. Je crois que les églises, en tant qu'émanation du peuple des chercheurs de Dieu, sont en effet des lieux parmi d'autres, oui, mais des lieux vivants, où la forme de l'Évangile peut et doit s'élargir. Alors oui, c'est vrai, l'histoire nous montre que depuis les commencements, la volonté humaine de pouvoir était en contradiction avec la proclamation évangélique. Mais dans ces difficultés et au cœur même de cette apparente contradiction, malgré tout, malgré les écrits antisémites de Luther, malgré l'assassinat de Michel Servet et les persécutions subies par de nombreux Genevois, et aussi malgré les communautés protestantes qui font aujourd'hui encore de la Bible une lecture littérale et coercitive, malgré tout cela, je crois que la réforme, la remise en cause définitive d'une Église sainte et infaillible, la conscience que l'Église a toujours besoin de se réformer, la réforme représente, a représenté depuis son origine et représente plus que jamais un élément d'ouverture et de progrès. Et si Calvin a rendu en partie la vie impossible à notre cher Sébastien Castellion, qui a eu la chance de mourir à Bâle avant le procès qu'il attendait à Genève, la réforme avait quand même permis à Sébastien Castellion, ce petit apprenti imprimeur, elle avait quand même permis que ce petit apprenti imprimeur devienne le premier théologien véritablement libéral, celui dont le dernier ouvrage posthume est intitulé « De l'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir ». Eh bien, comme Castellion hier, je crois que nous devons faire aujourd'hui simplement de notre mieux pour que notre Église, et je pense qu'à cet égard, c'est une grande chance qu'elle ait été persécutée et soit restée minoritaire, pour que notre Église, toujours à réformer, soit et demeure un des lieux où se manifeste cette exigence fondamentale que Jésus nous a transmise. La justice, la compassion, on pourrait dire aujourd'hui la bienveillance plutôt. La justice, la bienveillance et la foi. Amen.